titre du message, c'est un verset de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates qui dit ceci. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Lorsque les temps ont été accomplis, la jeunesse a fait un voyage dans le temps, vendredi, on va en faire un ce matin. Dieu a envoyé son Fils juste au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Dieu est toujours au bon moment. Il a préparé sa venue de longue date, parce que le plan du salut n'a pas été un plan improvisé, mais un plan mûri d'avance. Dieu a choisi Abraham, qui était le père d'une nation juive et de tous les croyants aujourd'hui. Dieu a envoyé Moïse, qui a donné la loi et les 10 commandements au peuple de Dieu. Il a suscité David de la tribu de Juda, de qui le Messie allait être issu. Il a établi des prophètes, prenant le cœur du peuple à Dieu et à la repentance, et annoncé la venue du Messie. Et finalement, il fait paraître Jean-Baptiste, qui était le précurseur qui peut préparer la voie au Messie. L'Épître aux Hébreux nous dit ceci, il faut vous lire deux versets. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, les derniers temps, là, ici, c'est pas juste la fin du monde, c'est depuis la venue de Jésus. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. » Comme c'est extraordinaire. Dieu nous a parlé par le Fils, mes frères et sœurs. En fait, l'Ancien Testament, c'est la longue préparation à la venue du Messie. Et nous voyons qu'il y a des personnages qui ont fait figure d'emblème. Isaac, le fils unique, offert en sacrifice, comme Jésus. Joseph, rejeté et vendu par ses frères, qui a pardonné sans condition. Samuel, qui a dispensé la parole de Dieu, qui a intercédé pour le peuple. Le roi David, qui était fort dans les combats et qui a remporté des victoires sur l'ennemi. Né d'une femme, nous dit l'apôtre Paul. En fait, si on va au verset de Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » La jeune femme ou la jeune fille, dans le texte hébreu, ça nous parle d'une femme qui n'était pas mariée. Et la Bible dit quoi? Que Joseph n'a pas connu Marie tant qu'elle n'a pas enfanté son premier-né. Qu'on a dans le sens qu'il n'y a pas eu de relation sexuelle avec elle. La jeune fille non mariée. Emmanuel, Dieu avec nous. Le Dieu créateur du ciel et de la terre est venu parmi nous. Homme parmi les hommes, en tout semblable à nous. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël son peuple. Le soleil de justice se lèvera pour vous et la guérison sera sous ses ailes. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est venu parmi nous. Le prince de la vie qu'ils ont mis à mort, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, le premier-né et le dernier, le tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, c'est Jésus. Alléluia! Emmanuel, Dieu avec nous. Le prophète Ésaïe, on l'appelle parfois le cinquième évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de prophéties concernant la venue du Messie, son ministère et tout cela. D'ailleurs, en passant, je vais vous faire une petite parenthèse ce matin. Le livre d'Ésaïe est un livre très intéressant. Et en 1947, il y a une découverte qui a été faite. On dit que, près de la mer morte, dans la région de Qumran, il y avait un berger qui cherchait une de ses bêtes, peut-être une brebis ou une chèvre, et qui est entré dans une grotte, pour voir si c'était pas là, qui a découvert ce qu'on va voir ici à l'écran. Voilà ici donc une photo d'une des grottes, il y en a d'autres, et il a découvert des urnes comme celle-là, assez hautes, et dans les urnes, il y avait des rouleaux des Écritures. Parce qu'à l'époque, évidemment, comme vous savez, les Juifs transcrivaient les Écritures sur des rouleaux, soit en papyrus, soit sur du cuir. Et ces rouleaux-là avaient été placés là environ autour de 2 siècles avant Jésus-Christ. C'était plus que 2000 ans que c'était là. Et très bien conservé, entre autres, on a découvert, parce qu'il y avait beaucoup de manuscrits de l'Ancien Testament, on a découvert le livre du prophète Ésaïe au complet. Les rouleaux qui étaient bien scellés, entourés de lin, et conservés. Frères et sœurs, ça nous montre que Dieu veille sur sa parole pour nous permettre de l'avoir entre nos mains. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais la Bible que nous avons entre les mains, là, c'est le fruit du travail de beaucoup de gens et d'un travail patient, persévérant, minutieux. Lorsque les Juifs transcrivaient les Écritures, là, eh bien, ils devaient d'abord confectionner sur quoi ils allaient écrire. C'est du papyrus, il fallait l'arranger ensemble, coudre des feuilles de papyrus ensemble, il fallait ensuite fabriquer l'encre, après ça, le crayon, le genre de stylo avec laquelle il allait écrire, ou la plume, et puis il devait inscrire ça minutieusement. Et les Juifs ont été très minutieux pour nous transmettre les Écritures depuis Moïse. Et ils ont transcrit avec une grande attention. Vous savez, quand quelqu'un transcrivait, alors il était sous la surveillance d'un maître qui lui s'assurait que chaque lettre était bien transcrite telle quelle d'un manuscrit à l'autre. Et ainsi, ils ont constitué des rouleaux des Écritures, soit sur du papyrus, soit sur du cuir, et c'était conservé pour nous. Aujourd'hui, on fait quoi? Avec un ordinateur, on fait copier-coller. C'est fait. Quelques clics. Mais là, copier-coller, c'était ces hommes-là ont consacré des années de leur vie à transcrire les Écritures, tout l'Ancien Testament, afin qu'il nous soit rendu aujourd'hui et que nous l'ayons entre nos mains, frères et sœurs. On est bénis de voir ça. Je vais vous encourager à en lire chaque jour des extraits. Et ce matin, on va en lire quelques-uns du prophète Ésaïe pour comprendre ce que Dieu a pour nous. D'ailleurs, la photo suivante nous montre un manuscrit, peut-être sur du papyrus, je ne suis pas certain, mais c'est un manuscrit comme ça, sur lequel ils écrivaient pour notre bien. Mais voici des prophéties à ce sujet du Messie. La suivante. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Ésaïe décrit la condition spirituelle du peuple d'Israël à cette époque-là. Mais ça va au-delà de cette époque-là, et ça nous rejoint nous aussi aujourd'hui. Il annonce le salut et la délivrance à venir. Les ténèbres, les angoisses, l'ombre de la mort. Ça nous parle d'états d'âme, parfois, à lesquels on peut traverser. Les états d'âme qu'on voudrait fuir. Les états d'âme qui sont peu encourageants, déprimants. On ne veut pas vivre dans ces choses-là, mais parfois, ça peut arriver, et ça arrive à beaucoup de gens autour de nous. Les souffrances spirituelles, par des liens sataniques sur les vies des gens. Les souffrances émotionnelles, par les traumatismes et les blessures que les gens ont subies. Les gens sont captifs de leurs péchés. Ils cherchent leur véritable identité. Mais il dit quoi ici? Une grande lumière. Une grande lumière. Frères et sœurs, je vais vous raconter ceci. Quand je me suis converti, Dieu m'a donné une image. C'est comme si j'étais dans une forêt très, très touffue, très dense, où il faisait sombre, et tout à coup, j'arrivais dans une clairière baignée de soleil. La lumière du Seigneur s'est révélée à moi. C'est vraiment l'image que Dieu m'a donnée, une grande lumière. Tu rends le peuple nombreux de grande joie, la joie du salut. Lorsque Jésus est entré à Jérusalem, la foule a acclamé, et ils étaient remplis de joie à cause de tous les miracles qu'ils avaient vu. Moi, ça fait 44 ans que je connais le Seigneur et j'ai entendu tellement de témoignages de miracles pour bien des gens que j'ai connus. Miracles de conversion d'abord. Je me souviens d'un homme à Drummondville qui s'est converti. Il était directeur d'une usine. Une usine, il fait 300 employés. Il y avait dans l'église un chrétien qui était là, qui connaissait bien et qui travaillait là. Et je me dis, lui, là, c'est le dernier que je pensais qu'elle allait se convertir. Dieu fait des miracles, frères et sœurs. Ceux qu'on pense qu'ils ne convertiront pas, là, mais attention, ils vont se convertir. Des miracles de guérison aussi. J'ai une guérison un jour. J'avais à l'époque 12 verrues sur les doigts. Vous savez ce que c'est des verrues, hein? Alors, je suis allé voir un médecin un jour, puis il m'a dit, reviens la semaine prochaine, on va en brûler quelques-unes, puis d'autres, je vais donner une injection parce que je ne peux pas être trop proche des autres. C'est beau. Et le dimanche soir, j'étais à l'église, pasteur prêche, je fais un appel, j'avance à l'appel, et je dis, voilà, j'ai des verrues, je vais compris pour ça. On prie pour ça, puis dans la semaine, ils ont toutes séché. Je peux retourner chez le médecin. Merci Seigneur, c'est pas fâché. Dieu fait des miracles de délivrance. Combien de gens j'ai connus qui ont été délivrés de la cigarette et de l'alcool? Combien? Les miracles de restauration des vies. Les vies réparées, changées. De réconciliation. Encore, quand nous étions à Drummondville, il y a un jour, il y a une femme qui était dans l'église, qui était seule, s'est convertie, et puis on l'a vue évoluer petit à petit, elle était vraiment déprimée au départ, puis elle a grandi, tout ça. Mais on a su qu'elle avait été mariée, puis son ex-conjoint était avec une autre femme. Puis au bout de, je sais pas, un an ou deux, voici que l'ex-conjoint vient à l'église. Il avait laissé l'autre femme, ils ont recommencé à se fréquenter, puis ils ont marié à nouveau. Gloire à Dieu! Dieu fait des miracles. Amen. Alléluia. Admirable conseiller. Admirable de son conseil, dit la Bible. Un esprit de conseil que Jésus-Christ aura sur lui. Dieu puissant, le Dieu fort et conquérant des cœurs, béni soit Dieu. Le Père éternel, Jésus est venu avec la bienveillance d'un Père, bienveillance constante. Le Prince de paix, il nous parle de prospérité, de tranquillité et de la paix de Dieu qui peut remplir nos cœurs. Je vous laisse la paix, dit Jésus, pas que le monde donne, je vous donne ma paix. Une paix sans fin. Lorsque sa venue viendra, sa seconde venue, ce sera une paix sans fin. Ça va être extraordinaire. Et vous voyez, à ce jour-là, vous autres? Pas plus que ça. Moi, en tout cas, oui. Il n'y aura plus de mal, plus de souffrance, plus de larmes. L'Apocalypse dit quoi? Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. On n'a pas connu ce monde-là encore. On voit beaucoup de souffrances, beaucoup de malheurs. Un jour, ce sera fini tout ça, avec le Seigneur. Un avenir glorieux est réservé au peuple de Dieu. Ésaïe, chapitre 11, verset 1 et 2, nous dit quoi? Un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un rameau sortira de ses racines. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, la nation d'Israël était au plus bas. Il avait délaissé Dieu, il y avait une religion formelle et tout ça, tradition et tout. Et un rameau est sorti du tronc d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le père de David. Et le Seigneur Jésus est issu de la tribu de David, tribu de Juda. Un arbre coupé, le tronc reste là, et tout à coup, la vie jaillit. C'est ce que le Seigneur fait, frères et sœurs. Ce qui est mort, il rend à la vie. Et avec quel esprit? Un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Personne ne peut résister à sa sagesse. Il y avait toujours la parole qu'il fallait. Ceux qui ont tenté de le prendre au piège, il y avait toujours la réponse à leur donner. Jean nous dit quoi? Qu'il n'a pas reçu l'Esprit avec mesure, pleinement rempli du Saint-Esprit. Ésaïe 42, ça c'est une prophétie intéressante. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre dans les rues, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ce n'était pas une mission facile, il ne se découragera point. Il y a eu un courage inébranlable. Il tirait son courage de sa relation avec le Père. Il est dit quoi ici? Le serviteur de l'Éternel revêtu du Saint-Esprit. Et le Seigneur n'a pas cherché à faire de la publicité lui-même, les gens venaient à lui. Il n'a pas cherché à provoquer la controverse, mais son message provoquait la controverse. Il n'a pas cherché à soulever une révolte, mais il y avait beaucoup d'adversaires contre lui. Il est venu pourquoi? Pour réparer des vies brisées. Pour rallumer l'espoir de ceux qui n'en ont plus. Comme pasteur Jean-Claude disait tantôt, il y a des temps sombres, il y a une étoile qui brille. Le Seigneur vient, frères et sœurs. Et son ministère était animé du Saint-Esprit. Sa mission, une humanité souffrante, déprimée, victime d'abus et d'injustice. Tous les jours, on peut voir ça dans les médias. Mais quoi? Il brise pas le roseau cassé, puis éteint pas la mèche qui vacille encore. En d'autres mots, il vient pour restaurer une vie qui est brisée. Il vient pour relever, fortifier, encourager, remettre à neuf. Nous, on jette, le Seigneur prend ce qui est jeté et puis remet à neuf. Pour réconcilier avec Dieu, raviver la flamme de la vie, ceux qui chancellent, donner un souffle nouveau, il peut faire pour chacun d'entre nous. Son courage, il le prenait de sa relation avec le Père. Malgré toute l'opposition, malgré toute l'adversité, il a gardé courage. Et frères et sœurs, son courage peut devenir notre courage. Fortifie-toi et prends courage. Nous ne perdons pas courage, dit l'apôtre Paul. Malgré les échecs du passé, les erreurs, Dieu est là encore pour nous conduire au succès. Il veut qu'on progresse avec lui. Le verset 6 et 7, je pense que je les ai mis aussi. Oui. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour ta lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Qu'est-ce que Dieu fait? La lumière pour donner le salut. La délivrance de tout lien. La délivrance, j'ai parlé tantôt de gens qui ont été délivrés de la cigarette. Est-ce que tu as été délivré de la cigarette ici? Quelques-uns, hein? J'en ai connu plusieurs aussi ailleurs qui ont été délivrés de la cigarette. Délivrés de la drogue, parce qu'il n'y a pas que la cigarette, il y a bien d'autres drogues aussi. Délivrés des excès de l'alcool. La Bible n'interdit pas de consommer l'alcool, mais fais bien attention au vin qui perle dans la coupe et qui finit par mordre comme un serpent. Surtout au temps des fêtes. On est invité, les gens nous invitent, il y a des bouteilles de boissons sur la table, on vous en offre. Si pour toi une coupe c'est trop, prends-en pas dessus. Il vaut mieux s'abstenir que de tomber dans un piège. Les dépendances à la pornographie. Ça, c'est la perversion de la sexualité, alors que Dieu crée la sexualité comme étant bonne, saine, dans un cadre bien précis. On a perverti tout ça. Dépendance aux jeux vidéo. Combien de jeunes sont accros à ces choses-là? C'est juste des jeunes, des fois. Je veux dire ceci. Avec l'aide de Dieu, on peut rompre avec tout ça. Quand j'étais sur le point de me convertir, moi, j'étais un fumeur de cannabis. Et quand j'étais sur le point de me convertir, parce que mon beau-frère, ma sœur m'en parlait, et puis même Michel m'avait dit que lui, il y avait une bonne quantité chez lui, quand il s'est converti, il a mis ça dans un feu de camp. C'est plus du cannabis. Je ne sais pas si les orignaux autour ont senti ça. Les écureuils peut-être proches. Là. Mais ça m'a surpris, mais ça ne m'a pas convaincu. Alors un jour que j'étais, parce qu'on était en cheminement, Denise et moi, pour se convertir, alors un jour j'étais en cheminement, je me suis dit, tiens, je vais un marché avec moi-même, indirectement avec Dieu. Il dit, je m'en restais chez nous. Je vais en fumer un joint encore. Si j'aime l'effet, je continue d'en fumer. Si j'aime pas l'effet, j'en prendrai plus. Vous savez ce qui est arrivé? J'ai pas aimé l'effet. Sans blague. Le Saint-Esprit était là, certain. D'habitude, j'aimais ça. Et ce jour-là, j'ai vu que Dieu me montrait clairement, c'était ça. C'était définitif. Ma décision était irrévocable. Je ne toucherai plus à ça du tout. Puis la tentation était proche parce que on demeurait dans un deuxième, puis il y avait un appartement juste en face de chez nous. C'est un de mes amis qui était là, puis lui, il fumait. J'ouvrais la porte de l'appartement, ça sentait. Il fallait qu'elle frappe à sa porte. il m'aurait invité, il m'en aurait offert. Non. C'était décidé, définitif, je ne touchais plus à ça. Frères et sœurs, avec des choses qui nous tiennent captifs, là, un jour, il faut prendre position. Quand le Saint-Esprit nous parle, il faut décider maintenant, c'est terminé, c'est final bâton. On rompt avec quelque chose. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Alors, c'est possible. Il est venu pourquoi? Libérer les captifs. Il peut le faire. Il l'a fait avec moi, il va faire avec vous autres aussi. Pour que les gens soient témoins de la grâce de Dieu et de sa présence dans nos vies. Ésaïe 53 est certainement la prophétie la plus connue de tout le prophète Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il était maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est une prophétie extraordinaire qui décrit les souffrances du Messie. Tout ce qu'il allait subir à cause de nous. Abandonné des hommes, alors que Jésus avait été avec ses 12 pendant 3 ans et demi, qu'ils avaient enseigné, il a mangé avec eux, ils accompagnaient partout et fait des miracles. Il a même lavé leurs pieds quelques heures avant. Et quand il est venu le temps d'être solidaire avec lui, ils se sont tous sauvés. Abandonné des hommes, ridiculisé, insulté, fouetté, crucifié et finalement abandonné par son propre Père. Parce qu'il a pris sur lui le poids de nos péchés. Il a payé un prix élevé, frères et sœurs, pour qu'on soit pardonné et réconcilié avec Dieu. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a même une provision de guérison corporelle, intellectuelle, émotionnelle, par la puissance de Dieu. Tout ça pour nous. Et c'est gratuit en plus. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. J'ai une dernière prophétie ce matin. 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Une année de grâce, eh bien, on est dedans. Elle a commencé depuis longtemps, l'année de grâce. C'est maintenant le temps du salut. C'est maintenant le temps de se tourner vers Dieu pour être sauvé. L'année de grâce du Seigneur. Et il emploie un langage imagé ici. On a parlé tantôt de liberté pour les captifs, de délivrance pour les prisonniers et tout cela. Mais il parle aussi d'un diadème, qui était un turban ou une couronne qu'on mettait pour les jours de fête. Un diadème au lieu de la cendre. La cendre, on s'en mettait sur la tête quand on s'humiliait, qu'on jeûnait, qu'on priait. Et bien là, c'était les jours de fête, un diadème, une couronne. Une huile de joie. Lorsque les Juifs se réjouissaient, ils soignaient d'huile. En signe de réjouissance. Au lieu de quoi? Au lieu du deuil. La tristesse et de l'abattement. Encore ici, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Frères et sœurs, Dieu veut nous sauver et veut nous bénir et veut qu'on saisisse pleinement et qu'on vive pleinement la signification de Noël. On a un beau chant tantôt de Noël et on va le fêter bientôt Noël. Mais ce matin, je vais vous dire ceci, la vraie joie de Noël, elle est en Jésus, en son salut. Alléluia. C'est en lui seul. C'est lui qui peut nous donner cette vie véritable, cette vie abondante. La liberté des enfants de Dieu. Amen. J'invite les musiciens, les chanteurs. On a chanté le chant tantôt, là, Jésus-Christ, mon espérance. Ça serait un beau chant à chanter, je trouve ça. Mais pour nous, Noël, c'est le don de la vie abondante. Les cadeaux, c'est pour nous rappeler qu'on s'aime les uns les autres, c'est le fun. Mais le vrai sens de Noël, c'est la vie abondante qui est en Jésus. Et il veut qu'on ait la vie et la vie en abondance, n'est-ce pas? Il veut qu'on ait cette vie-là. Pour nous, Noël, c'est l'assurance du pardon de nos péchés. C'est que les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses deviennent nouvelles. Tous mes méfaits, toutes les choses que j'ai faites de mauvaises maintenant, c'est pardonné, c'est dans l'océan de l'oubli. Merci Seigneur! Maintenant, je suis un enfant de Dieu et je veux marcher la tête haute avec lui. Noël, c'est la délivrance de ce qui peut me tenir captif encore. C'est la victoire sur la tentation. Noël, c'est la liberté d'un enfant de Dieu. C'est la paix avec Dieu et la paix de Dieu dans mon cœur. C'est tout ça, Noël. On le chante, mais Dieu veut qu'on le vive pleinement. Et ce matin, pendant qu'on va chanter ce chant, s'il y en a parmi nous qui ont besoin vraiment que le Seigneur leur donne une victoire sur telle ou telle chose, peut-être une chose que personne ne connaît, une chose qui est bien intérieure, mais vous savez, je vais vous inviter à vous approcher ici devant. Si pour d'autres, c'est recevoir une guérison physique, émotionnelle, spirituelle, approchez-vous aussi. Le Seigneur veut vous guérir, il veut vous rencontrer, il veut vous faire du bien parce qu'il est vivant. Il nous veut du bien. Amen. Je vais vous inviter à vous approcher, ceux qui le veulent. Pour les autres, on peut se lever ensemble si vous voulez. On va chanter ensemble ce chant-là. Jésus-Christ qui est mon espérance, notre espérance. Et si vous voulez vous approcher pour la prière, de dire, Seigneur, je te consacre ma vie, Seigneur. Je veux m'approcher de toi, Seigneur. Je veux vivre la vraie liberté qui est en toi, Seigneur. La vie véritable que toi, tu donnes. Je la veux. L'espérance que toi, tu donnes, Seigneur. Si tu luttes ce matin avec la dépression, avec un esprit abattu, le Seigneur te donne un vêtement de louange. Viens chercher ce vêtement. Approche-toi pour chercher ce vêtement qu'il veut t'accorder.